Salut, c'est Piouf. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis podcasteur depuis 2010 avec notamment le feu Bazingcast. J'ai créé il y a 2 ans le podcast d'Actual Play pour une poignée de dés, ou P1PDD pour les intimes, dont la 2e saison se termine en ce moment. J'ai aussi participé occasionnellement à Club JDR. Je vais vous parler de ma pratique du jeu de rôle en 2 mots pour que vous ayez un peu de contexte. Ma découverte du jeu de rôle et ma pratique pendant longtemps s'est faite sans règles, loin des manuels de jeu de rôle et des univers déjà préparés. Après cela, ma pratique a évolué plus classiquement, mais pour autant, je n'ai jamais joué à un scénario non maison, et très peu dans des univers non maison à l'exception de World of Darkness. Cependant, je pense que je reste paradoxalement un joueur de jeu de rôle très classique. La conséquence de tout cela est que je n'ai très peu de culture rôliste et que j'ai joué à très peu de jeux en réalité. Contrairement à beaucoup de créateurs d'Actual Play, je pense, je suis arrivé à l'Actual Play plus par le podcast que par le jeu de rôle. Cela faisait plus de 15 ans que je n'avais pas fait de jeu de rôle, en revanche, j'avais fait pendant de nombreuses années du podcast audio avec Bazingcast qui a eu un grand succès en son temps. Dans ma démarche de création de P1PDD, je suis donc plus parti du podcast pour aller vers le jeu de rôle que l'inverse, et je pense que cela a une réelle incidence sur ma vision du média. Quelle est la place de l'Actual Play? Si on résume les interventions précédentes, celui-ci peut servir à, pour les participants simplement pouvoir jouer, il est en effet l'extension facile et naturelle du jeu de rôle en ligne qui permet une pratique plus facile, il peut aussi être un prétexte à jouer pour ceux ayant besoin de renouveler leur motivation, c'est aussi une façon de donner de la postérité à ces sessions de jeu dont certaines scènes continuent d'alimenter les conversations nostalgiques plusieurs années plus tard. Pour les auditeurs, il peut être un substitut à une pratique, qu'ils n'ont plus le temps de faire. Il peut aussi être un moyen de découvrir des jeux, d'autres façons de pratiquer le jeu de rôle. Il permet de promouvoir ce hobby, il peut être pour les auteurs une façon de faire la promo de son jeu, pour d'autres, il est une activité conviviale pour faire la promo d'invités. Et enfin, il peut être vu comme un moyen de créer autre chose, et c'est ce dernier point qui m'intéresse. En effet, la principale fracture pour moi se trouve entre ceux qui aiment avant tout le jeu de rôle, et qui l'enregistrent pour l'une des raisons évoquées précédemment, et ceux comme moi, et j'ai l'impression fibre tigre, qui certes aiment le jeu de rôle, mais qui ont un objectif principal de créer un contenu pour le spectateur, un spectacle peut-être pour Game of Rolls, et une fiction sonore pour mon podcast pour une poignée de dés. Personnellement, mon objectif avec le live play n'est donc pas de jouer au jeu de rôle, mais d'utiliser celui-ci comme un moyen de création original d'une fiction sonore pour une personne extérieure. Mon client principal est donc avant tout l'auditeur. Le live play tel que je le pratique me permet de relever un challenge de création, celui de créer une fiction intéressante pour le spectateur, mais sans la maîtrise totale du script et des dialogues. Je rejoins Fibre Tigre sur l'infinie richesse du jeu de rôle comparé aux limites des films et séries. Avec le live play, mon objectif est de réussir à insuffler cette richesse dans une création narrative intéressante pour le spectateur. Ce dernier prend, je pense en effet, un plaisir décuplé à voir se dérouler une fiction dont il sait que l'auteur n'a pas simplement eu à écrire l'histoire en tant que puissance omnisciente sur les réactions des personnages et les hasards des actions. Cela rejoint probablement mon approche assez libérale du jeu de rôle et mon goût particulier pour le PVP. Le jeu des personnages est aussi beaucoup plus intéressant pour le spectateur, car ils ont un réel libre arbitre dans l'histoire. Cela permet de créer pour moi une sorte de fiction très réaliste, quelque chose d'assez unique. Alors certes, dans ce cas-là, on efface certaines composantes du jeu de rôle au profit de la narration, explication de règles, jet de dés, débat technique, etc. C'est un choix clair qui peut peut-être biaiser l'image du jeu de rôle. L'intensité du montage est d'ailleurs un indice flagrant de l'objectif de l'auteur. Ceux qui auront pour objectif de s'amuser et jouer ne couperont rien, ceux qui souhaitent faire découvrir un jeu ne couperont pas les explications de règles ou les jets de dés, alors qu'enfin, ceux qui souhaitent créer un récit pour l'auditeur comme moi couperont plus drastiquement. Pour résumer, en faisant quelques recherches, on se rend bien compte qu'il y a une forte hétérogénéité des styles de l'Actual Play. Et cela s'explique en fait par des motivations très différentes derrière cette pratique, et non simplement une différence de niveau de qualité. Les objectifs sont différents, les priorités sont donc différentes. Jouer beaucoup pour son fun perso, faire découvrir, tester plein de systèmes de jeu, donner de la postérité à ses parties, créer un spectacle live ou une fiction. Par-dessus la richesse déjà immense des différentes pratiques de jeu de rôle, s'ajoute donc celle des différents types de live play, et c'est une bonne nouvelle. Le défi va être de réussir à guider les auditeurs vers les contenus qui leur conviendront dans cette jungle du mot-valise Actual Play. Peut-être devrions-nous enrichir le vocabulaire de ce nouveau contenu en définissant des termes plus précis pour chacun des types de contenus. Merci Thomas pour cette opportunité de présenter mon point de vue et merci à tous les autres participants pour leurs explications qui m'ont moi-même aidé à y voir plus clair dans ma pratique.